Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il vous sera difficile de trancher. Ce roman est-il écrit par un écrivain musicien ou par un musicien écrivain? Mais une chose est certaine, il y a de la poésie dans ce texte, du relief, de la profondeur et de l'amour. On comprend vite qu'écrire un roman, ce n'est pas exactement la même chose qu'écrire une chanson. Dans un roman, on pousse l'histoire dans ses moindres recoins, alors que dans une chanson, c'est un roman de 3 minutes 30 qui requiert de la concision. Sur une bande son folk, blues, country et rock, vous serez confronté à l'influence du hasard dans la vie. Vous vivrez la passion artistique, vous ressentirez l'intense sensation d'interpréter des chansons et de voir les gens heureux de les écouter, d'avoir une vie qui consiste à offrir des bouquets musicaux et à devenir fleuriste des tympans. Vous comprendrez donc ce que c'est que rendre heureux les gens avec des notes. Vous mesurerez les effets d'un don pour le picking d'un sacré tricoteur de gratte. Vous serez transporté par un chercheur de mots et un tisseur de phrases, un véritable naturopathe de l'esprit. Telle est l'ambition réussie de ce premier roman de Jean-François Vessière, « Ne pas briser le cercle », paru aux éditions Nombre 7 et grand prix du roman 2022 du Salon du Livre de Toulouse, organisé par les Gourmets des Lettres. Bonjour Jean-François Vessière.
Bonjour Philippe, et merci pour cette magnifique introduction.
Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons essayer de faire profiter nos auditeurs de ce texte que j'ai trouvé formidable. Mais avant de commencer, je voudrais m'adresser directement aux auditeurs, puisque c'est la première émission que je fais cette année, en leur souhaitant une très très bonne année 2023 et surtout en leur disant que pour cette année-là, l'ensemble de l'équipe de Parole d'auteur va leur réserver plein de surprises et beaucoup de cadeaux. Et le premier cadeau, eh bien, c'est aujourd'hui.
Merci.
Alors, Jean-François Vessière, dites-moi, est-ce que j'aurais dû aussi souhaiter aujourd'hui la bienvenue à Jefferson Noisette?
Ça, c'est à vous de voir. C'est vrai que derrière l'auteur, pas l'écrivain, mais l'auteur se cache, oui, effectivement, le musicien, j'aime pas trop ça, le faiseur de chansonnettes. Mais et que, bon, c'est vrai que dans le roman, je me suis un peu servi de mon expérience de scène, de gratteux, si j'ose dire, pour écrire certains passages de ce roman, quoi. Donc, il n'est pas autobiographique, mais bon, il y a un peu d'autofiction dedans, quand même.
Voilà. Donc, je précise pour nos auditeurs que vous avez une double casquette, double activité, puisqu'effectivement, vous êtes auteur-compositeur. Et on va le voir peut-être un petit peu dans un instant, puisque vous avez une bibliographie, mais vous avez aussi également une discographie. Alors, en termes de biographie, dites-nous un petit peu ce que vous avez fait.
On a combien? 3 heures?
En résumé.
Non, en résumé. Mais, bon. Oui. Mais disons que j'ai... Alors, on va parler musique, puisque c'est ce qui a mené un petit peu, c'est le fil rouge de ma vie, quoi. Bon, à 14 ans, je découvre les Rolling Stones, je veux apprendre la guitare, mais je suis en pension et le prêtre qui s'occupe du solfège dit à ma mère « Non, non, il n'a pas fait de solfège, on ne commence pas la guitare sans faire de solfège, etc. » Ce à quoi je réponds à ma mère « Bon, écoute, les Rolling Stones, ils n'ont pas fait de solfège, ça ne les empêche pas de faire du rock et du blues. » Donc je me suis acheté une guitare pourrie et j'ai commencé à apprendre là-dessus. Et de fil en aiguille, bon, ben, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris un petit peu à tricoter. Sur une 6 cordes, et ensuite, bon, après quelques pérégrinations dans des travaux qui ne m'intéressaient pas du tout, je me suis retrouvé dans les radios libres, et donc j'ai commencé sur la plus grosse radio libre de Toulouse, qui était SF100 à l'époque, qui a été rachetée par Énergie par la suite, et puis après, de fil en aiguille, je suis rentré à ITFM d'abord, qui était l'ancêtre d'Europe 2, puis RFM Europe 2, quand RFM a été racheté par le groupe Lagardère. Donc j'ai eu une petite carrière d'animateur, mais surtout une grosse carrière de responsable de promo en radio, quoi. Et parallèlement à ça, j'ai mené une, disons, faire un peu d'écriture à travers des journaux. Notamment, j'ai commencé à la Dépêche du Midi, puis dans des fanzines, puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Rock and Folk, ce qui m'a permis d'aller aux États-Unis, de visiter les États-Unis, puis ensuite, j'ai travaillé pour d'autres journaux. Et donc, bon, j'ai toujours eu, je suis toujours resté dans l'univers musical, quoi. Jusqu'à ma retraite, et après j'ai continué en tant que formateur dans une école de formation au métier de la radio.
Et alors on sent effectivement dans le roman le matériel, si je peux employer ce terme, très important de vos séjours aux États-Unis. On sent que c'est du vécu, et les lecteurs seront vraiment, je dirais, transporté outre-Atlantique dans ce milieu-là. Alors, j'ai toujours une question lorsque des gens soit écrivent sous un pseudonyme, soit ont un pseudonyme pour une autre activité. Jefferson Noisette, pourquoi ? Comment vous l'avez choisi ?
Parce que je trouvais que Jean-François Bessières, ça sonnait mal pour faire ce que je faisais. Donc Jefferson, parce que dans ma jeunesse, j'étais un fan de Jefferson Airplane. Et notamment de sa chanteuse Grace Slick, et puis des musiciens. Donc Jefferson, tous mes copains m'appelaient Jefferson à cause de ça, donc j'ai gardé ça. Et Noisette, en fait, c'est l'origine celtique et occitane de mon nom Vessière, qui en la Baïche, disons dans le Cantal, puisque ma famille est auvergnate, et originaire de là, c'est l'endroit où poussent les noisetiers. Donc j'ai fait Jefferson Noisette. Et pour me singulariser, j'ai voulu mettre un Z. J'ai dit, comme ça les gens vont pas me faire Noisette, la Noisette, etc. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait beaucoup de noisettes dans l'Est de la France, avec un Z.
Avec un Z. Donc, voilà. Alors c'est vrai, c'est donc Noisette avec une prononciation à l'américaine.
Voilà.
Alors en termes de bibliographie, vous avez publié des nouvelles. Une série de nouvelles, de chroniques, intitulée « Chroniques du bord de Garonne et d'ailleurs ».
Oui.
Alors, ça parle de quoi ?
Alors, ce sont des nouvelles que j'avais dans le fond de mon ordinateur, et que j'ai retravaillé un petit peu lors de vacances en 2017. Et puis, bon, j'agis souvent sur des coups de tête. Enfin, comme ça, ça me prend. J'ai dit, bon, je vais tenter le coup, je vais l'envoyer à un éditeur. Et 15 jours après, il y a un éditeur de Tarbes, donc éditeur qui m'a dit, bon, moi je pourrais vous éditer. Donc en fait, c'est des nouvelles plus ou moins autobiographiques, et d'autres qui sont pas du tout autobiographiques, mais bon, disons que l'intérêt de ces chroniques, c'est que la première nouvelle et la dernière nouvelle sont liées entre elles, quoi. Voilà.
Et alors le passage de la nouvelle au roman, ça s'est passé comment ?
Avec difficulté.
Ah oui.
Oui, parce que en fait, j'étais toujours avec la presse, j'étais toujours habitué à faire du court, c'est-à-dire faire un feuillet, deux feuillets, trois feuillets. Donc, en gros, pour les gens, c'est une page dactylographiée ou tapuscrite, comme on dit maintenant. Et donc, la nouvelle me correspondait, parce que la nouvelle, on peut faire court, on peut faire long, on peut faire une page, deux pages, trois pages, quatre pages, peu importe. Et donc la nouvelle me convenait et je n'avais pas du tout envie de me lancer dans le roman. Et puis j'avais écrit une nouvelle un jour un tout petit peu plus longue. Et c'est un ami qui m'a dit « Mais tu sais, tu devrais en faire un roman quand même. » Et là, je me suis dit « Là, tu t'attaques à l'Everest. » Parce qu'il fallait passer de une page, deux pages à 150, 160, voire 200 pages, quoi. Et puis bon, j'ai tenté l'expérience. Je pense y être arrivé, quoi.
Expérience réussie, on va y revenir, je le dis pour nos lecteurs, parce que je voudrais qu'on revienne sur l'écriture, hein, c'est le fait d'écrire aussi, donc on va y revenir dans un instant. On s'arrête un moment sur votre discographie. Alors, j'ai compris que vous étiez carrément diplômé de l'université vinylique des professeurs Woody Guthrie, Tom Paxton, Dylan et autres agrégés en folk.
Oui.
Est-ce bien vrai ?
Ah oui, oui. Parce que les premiers morceaux que j'ai entendus de musique américaine, parce que j'étais très anglais à l'époque, j'écoutais les Stones, j'écoutais tous les Yardbirds, en fait tous les groupes de l'époque des années du British Boom, quoi. Et puis un jour, comme j'habitais Toulon à l'époque, dans les bas quartiers, il y avait un gars qui vendait des vestes américaines, puisqu'il y avait la flotte américaine à l'époque qui venait encore. Et puis qu'il y avait au fond un petit rayon d'import de disques. Et moi, à l'époque, j'aimais John Baez et Bob Dylan. Et il m'a dit, tu sais, si tu aimes John Baez et Bob Dylan, regarde le père du folk, c'est Woody Guthrie. Et donc j'ai commencé à écouter du Woody Guthrie. Et puis, bon, après, il y a eu tout Tom Paxton, etc. Et je suis venu au folk. Et comme j'avais une guitare acoustique, je n'avais pas les moyens de m'acheter une guitare électrique, je n'ai pas fait du rock, j'ai fait du folk. Et donc, je suis resté dans ce milieu du folk. Et après, je suis venu à la country, tout en restant dans le rock.
D'accord.
Le folk est arrivé dans le rock aussi, avec Crosby, Stills, Nash & Young, avec des gens comme ça. Et donc, je me sentais à l'aise dans les deux, quoi.
D'accord. Et finalement, c'est le hasard et de la destinée un petit peu qui vous a orienté dans ce sens-là.
Voilà.
Alors c'est important de souligner ce sujet-là, puisque c'est un des thèmes du roman, hein, c'est le hasard et la destinée, les rencontres qui déterminent l'orientation des vies, des personnages dans ce roman. Mais on va y revenir. Alors ce que je voudrais dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez publié plusieurs albums Tous ces mots en 2014, Danser sous la pluie en 2017 et De la lune au soleil en 2020.
Et le premier qui s'appelait Carte de visite.
Et le premier en 2017. Voilà, je l'avais noté aussi. Alors, je dis ça pour nos auditeurs parce que ils retrouveront, comme je l'ai fait, des textes de chansons écrits par vous-même dans le texte et dans le roman, écrit par quelqu'un d'autre, un des personnages du roman. Mais c'est très, très intéressant de retrouver, effectivement, finalement, une co-écriture Jean-François Vessière, Jefferson Noisette, en quelque sorte. Je voudrais qu'on prenne un petit instant, avant d'aller un peu plus loin, pour que vous essayiez, c'est un exercice difficile à la radio, mais j'ai trouvé la couverture, la première page, très inspirante. Est-ce que vous pourriez la décrire avec vos mots pour nos auditeurs ?
En fait, pour être clair, la première de couverture, c'est toujours l'éditeur qui l'a choisi. Mmh. Et moi, pour ne pas trop typer le roman musique, je ne voulais pas avoir de guitare dessus. Ça tombe bien. L'éditeur a trouvé, donc il a trouvé quelqu'un de dos, beaucoup de gens me disent, tiens, on dirait toi avec le chapeau, qui est assis sur un muret au bord d'un quai, certainement du Mississippi ou d'un fleuve américain, avec un pont typique des États-Unis, et posé derrière lui un étui de guitare, un flycase de guitare noir, et le personnage donc de dos regarde le fleuve. Voilà. Donc c'est une image très blues, très country, et qui... Voilà, qui décrit un petit peu l'ambiance du roman.
Alors, tout à fait. Donc, je recommande à nos auditeurs, qui sont naturellement des futurs lecteurs, de bien regarder cette image, parce que je trouve qu'elle annonce bien le roman. Et tout est important dans cette image. Donc, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, je voudrais lire un petit passage qui est, je dirais, sans doute votre conception de l'écriture qui passe par le fait que vous faites parler un des personnages du roman. Alors, comme d'habitude dans les romans, j'essaye de ne pas aller trop dans le détail pour garder le suspense pour les auditeurs. Alors vous écrivez, vous savez, écrire un roman, ce n'est pas la même chose qu'écrire une chanson. Dans un roman, on s'étale, on pousse l'histoire dans ses moindres recoins. Une chanson, c'est un roman de 3 minutes 30. Et quand on pose la question que je vais vous poser aussi, qu'est-ce qui vous pousse à écrire ? Le personnage du roman répond, un besoin viscéral que je n'explique pas, qui sait, la force vitale. Peut-être suis-je programmé pour écrire. Est-on prédestiné ou pas? Sommes-nous vraiment des êtres libres? Sommes-nous soumis ou pas à un déterminisme? Alors, est-ce que c'est la pensée de Jean-François Vessières dans son intégralité par rapport au besoin d'écrire, cette force vitale?
Alors, le besoin d'écrire, je crois que je l'ai toujours eu. Et depuis quelque temps, on me pose la question. Et en fait, j'ai réfléchi. Je crois que ça remonte certainement... Bon, à l'époque, on n'est pas... À la 7e ou à la 8e, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, si c'est CM1 ou c'est... Bon. Et à cette époque-là, on faisait des rédactions. Et un jour, j'ai fait une rédaction sur l'automne. Et j'ai eu... c'était une composition française. J'ai eu un très bien, un truc comme ça. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai... Enfin, je n'ai pas décidé d'écrire, mais je me suis dit, ça me plaît, quoi. Le truc, ça me plaît, quoi. J'ai du plaisir à faire ça, quoi. Et depuis, c'est vrai que j'ai du plaisir à écrire. Alors, du plaisir, mais de la souffrance aussi, hein, parce que écrire, c'est le mythe de Sisyphe. C'est, quand on a terminé, il faut recommencer, quoi. On a terminé un roman, bon, il faut le relire, il faut le recorriger, il faut le... Donc, c'est quand même... Et puis, des fois, il y a la... Moi, je touche du bois jusqu'à présent, la page blanche, c'est pas trop mon truc. Je remplis, quoi. Après, j'élimine. Mais c'est vrai que c'est un besoin pour moi, l'écriture, c'est comme la musique, voilà, c'est exactement pareil. C'est un besoin, peut-être que je suis programmé pour faire ça.
Alors donc, vous n'êtes pas victime du syndrome de la page blanche, mais est-ce qu'il y a des moments où l'inspiration est un peu en panne?
Alors, pour l'écriture roman ou nouvelle, etc., j'ai des périodes. J'ai des périodes où ça vient pas. Je laisse tomber. J'attends que ça vienne. Donc, je ne suis pas l'écrivain qui produit un roman par an. Et puis, pour les chansons, mais j'ai des périodes aussi, pareil. J'ai des moments où j'ai envie de prendre la guitare, d'écrire des chansons. Et puis, bon, on gratte, on ne trouve rien, on laisse tomber, on regratte, on ne trouve rien. Et puis, un jour, bon, comment, pourquoi, on ne sait pas.
Et il me semble me souvenir que dans une de nos discussions, vous m'aviez dit que vous écriviez en marchant.
Oui, tout à fait. En marchant ou dans la voiture.
Voilà.
J'écris pour les chansons, j'écris des fois une strophe ou deux lignes, deux vers. Et puis pour le roman, pareil. Pour le roman, j'allais me promener dans un jardin qu'il y avait à côté de chez moi à l'époque, un jardin public, et je faisais le tour, là, ça faisait 400 mètres le tour, je faisais 10-15 fois le tour, et puis j'écrivais un paragraphe, je disais, il ne faut pas que je l'oublie en rentrant à la maison. Dès que j'arrivais à la maison, je me mettais devant l'ordi pour retranscrire ce que j'avais pensé, ou des idées comme ça, des plans qui viennent. Et c'est souvent en marchant, oui, effectivement.
Alors Jean-François, je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant un de vos morceaux peut-être préférés qui s'appelle « Fermer la porte » et qui est en relation avec les moments où peut-être l'inspiration se fait un peu désirer.
Porte sans un regard, direction vers nulle part, sur la ligne d'horizon, j'ai dessiné ma maison, dans le désert de nos silences, égarés dans nos errances. Frontières entre nos corps, périmés nos passeports. Il y a des histoires d'amour qui ne devraient pas voir le jour dans les brouillards de nos rêves, restent juste des chimères, des alcools forts que l'on prend. Les vents mauvais, les coups de mer, les espoirs que l'on enterre, et au fond de notre lit, disparu le paradis. Thank you. des histoires d'amour qui ne devraient pas voir le jour. Dans les brouillards de nos rêves, restaient juste des chimères, des alcools forts que l'on prend quand la vie va de travers. Les jours sans fin et les nuits blanches, nos batailles perdues d'avance. Je suis certain qu'on en rira si un jour on se revoit. J'ai fermé la porte sans un regard.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Merci Jean-François pour ce moment fort agréable. Je vous rappelle que nous sommes donc en compagnie de Jean-François Vessière pour son roman Ne pas briser le cercle, paru aux éditions Nombre 7. Alors, je voudrais que l'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que l'écriture, c'était peut-être pas tout le temps évident. Vous faites dire à un de vos héros dans le roman, vous décrivez, je dirais, la sueur pour l'écriture. C'était ces heures en solitaire à répéter encore et encore, se bousiller les doigts pour enfin avoir le bonheur de pondre la mélodie parfaite. Le solo qui sonnait, c'était ces journées à sculpter les paroles d'un texte, à traquer le bon angle, la bonne tournure, à inventer la bonne métaphore, à pister le mot adéquat, à raconter une histoire en 3 ou 4 minutes, évoquer des images telles qu'au final, l'auditeur se construise son propre film. Parfois, c'était aussi pendant des jours, douter de son talent devant une feuille blanche au point de craindre l'assèchement définitif de sa créativité. Quel calvaire !
Non, c'est pas un calvaire, c'est le calvaire est un plaisir. Parce que oui, effectivement, il y a le calvaire, mais tout se fait dans la douleur. C'est comme un accouchement, quoi. Mais une fois que l'enfant, si j'ose dire, je puis m'exprimer ainsi, une fois que l'enfant en sort, bon, ben, on est content. C'est vrai que par rapport à ce titre qu'on vient d'écouter, bon, il fallait vraiment que, bon, je sorte un peu de l'ordinaire. Enfin, je voulais des images un peu fortes, quoi. Parce que, bon, voilà, il faut que, en 3 minutes, on fasse un film, quoi. Il faut que l'auditeur il ait des images. Enfin, pour ma part, quand j'écris une chanson, je fais un scénario de 3 minutes. Quoi.
Voilà. Donc, vous êtes face à des contraintes de temps très fortes par rapport à la chanson, par rapport au sujet de la chanson, de l'écriture. Il faut que, comme vous dites, en 3 minutes, il y ait une évocation complète.
Oui, enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est trouver l'angle. Trouver l'angle, parce que bon, des chansons d'amour, ça fait 10 000 ans qu'on en fait,
ouais, ouais.
Enfin, peut-être même plus. Bon, alors trouver le bon angle, trouver la belle métaphore, etc., donc, c'est pas toujours évident, quoi. Ça arrive pas tous les jours, quoi. Et alors, il y a des chansons qui sont bien, puis il y en a d'autres qui sont pour moins bien, mais bon, c'est vrai que moi, par exemple, bon, je porte au pinacle un monsieur qui s'appelle Francis Cabrel, parce que bon, il a le sens de l'angle d'attaquer une chanson. Bon, La Corrida, c'est vraiment l'exemple parfait, quoi.
Voilà. Alors, pour revenir un instant, là, vous faisiez le distinguo entre roman et chanson. Et moi, ça m'a rappelé une phrase de Bobin qui disait « Pour lire un roman, il faut 2 ou 3 heures. Pour lire un poème, il faut une vie entière. »
Oui. Alors, j'avouerai que je suis pas hermétique, mais la poésie, mais un petit peu...
Ouais.
C'est, bon, alors, bien sûr, j'ai des références. Hein, on va tomber dans les grands, les Verlaine, les Baudelaire, les Apollinaire, etc. Victor Hugo. Mais la poésie telle que je la lis aujourd'hui par certaines personnes, pour moi, c'est un peu hermétique, quoi. Et donc, je comprends qu'il faille toute une vie, oui.
Alors, moi, j'ai fait cette association parce que, donc, Bobin est décédé il n'y a pas très longtemps. Et on a fait une émission qui était en direct. Et moi, je l'avais rendu un petit hommage sur un texte dans lequel se trouve cette phrase. Mais surtout aussi en rapport avec vos chansons que je trouve poétiques.
Mais moi, si vous voulez, la poésie... j'en lis que très rarement, je dois le confesser. Par contre, quand j'écoute certains artistes, certains chanteurs, pour moi, c'est de la poésie, quoi. Ça fait une forme de poésie. Une forme de poésie.
Alors, on va essayer d'être peut-être un petit peu plus précis sur l'histoire du roman pour les auditeurs. Alors, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, il y a du road trip, il y a une bande son, comme si on écoutait un CD de country, de folk, de blues. Il y a une histoire d'amour, il y a une ode à la Martine D28, on va y revenir. Et puis il y a une très forte réflexion sur cette notion de transmission via une guitare. J'ai trouvé donc le hasard et le déterminisme qui étaient bien au centre de ce roman. J'ai découvert que l'on pouvait vivre en couple avec une guitare et quelque part... On a vraiment l'impression de suivre ce que vous avez déjà vécu. Donc le côté autobiographique aussi est très intéressant. Alors parmi les thèmes que vous abordez, il y a donc tout ce qui est lié au hasard, au destin, à la liberté. Et comme vous le dites à un moment donné, faut-il devenir un aventurier du hasard, un aventurier de la vie ? C'est important pour vous, ces notions ?
Oui, très important, parce que toute ma vie s'est faite sur des hasards. Enfin, les grands moments de ma vie se sont faits sur des hasards, alors que j'avais choisi d'autres voies. Donc, oui, je trouve que c'est important, le hasard. Alors, c'est aussi une thématique de blues, vous savez. Avec Robert Johnson, on arrive au bluesman, on arrive au croisement. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on choisit le diable? Ou est-ce qu'on ne choisit pas le diable? Donc là aussi, il y a la thématique du hasard, quoi. Donc, faisant un bouquin aussi sur les États-Unis, avec toute la mythologie qu'il y a derrière, surtout avec la musique des États-Unis, notamment la country, le blues, etc. Donc j'ai trouvé que ça me correspond exactement, quoi. Mais c'est vrai que le hasard, pour moi, était... Le hasard et le déterminisme, quoi, parce qu'on est... Je pense qu'on est tous déterminés, quoi, que l'espace de liberté qu'on a est si très, 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 très succinct, et pour ne pas dire inexistant.
Alors, vous citez dans le roman le livre de Jacques Kerouac, On the Road, et vous dites « L'appel de la route ressenti par son héros, il le partageait aussi. Parfois, il arrêtait la lecture, le regard dans le vide, il se mettait à rêvasser. Un jour, répondre à cet appel, devenir, comme Dean Moriarty, un aventurier du hasard.
» Voilà, c'est ça.
Tout est résumé là. J'ai trouvé, par rapport à cette notion de hasard, une petite citation d'Éluard qui disait « Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. »
Oui. Francis Cabrel le reprend dans une de ses chansons. Voilà, il n'y a pas ça. De hasard. Le hasard n'est qu'un rendez-vous.
Alors ça, c'était un premier...
Ce qui est vrai.
Pardon, oui.
Ce qui est vrai.
Oui, hein. Oui, effectivement.
Le hasard est un rendez-vous. Exactement. Rendez-vous inattendu, mais voilà.
Rendez-vous pas forcément planifié. Voilà.
Pas du tout planifié, et pas forcément non plus choisi.
Voilà. Et il n'est pas choisi, mais c'est pas parce qu'il n'est pas choisi qu'il va pas se révéler très positif.
Oui, oui. Ouais, mais pour le personnage principal du roman, il s'avère fructif.
Fructueux.
J'avais un trou de mémoire. Fructueux.
Alors, un autre thème qui est abordé, c'est le thème de la transmission. Alors, vous dites, oui, il y a cette idée du cercle de vie, chère aux Amérindiens. Toute vie s'inscrit dans un cercle qu'il ne faut pas briser. C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que c'est le titre du roman. Ne pas briser le cercle. Alors pourquoi ne pas briser le cercle? Parce que ça, c'est une chanson traditionnelle américaine qui s'appelle Will the Circle Be Unbroken, que tous les Américains connaissent, qui est une chanson plus ou moins religieuse, et qui dit, bon, mais ma mère est partie, mais bon, je vais continuer. Donc voilà. Donc les saisons, la vie, on est enfant, on grandit, on devient vieillard, on meurt. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, voilà. À chaque moment de sa vie, on a des... Enfin, c'est un cercle, quoi.
C'est un cercle.
Et c'est bon, toutes les civilisations amérindiennes, et même les civilisations, certaines civilisations asiatiques, au Tibet, etc., la vie est un cercle, quoi.
Alors, sauf que...
Avec un renouvellement, d'ailleurs dans la religion chrétienne aussi, un renouvellement.
Tout à fait. Alors, sauf que, en plus, dans ce roman... la transmission est très liée à une guitare. Alors peut-être que vous pourriez donner quelques éléments pour nos auditeurs, pour qu'ils voient un peu le fil rouge par rapport à la guitare.
Parce que en fait, bon, pour un musicien, avoir une bonne guitare, c'est quand même, enfin pour un guitariste, c'est quand même une chose très importante. Et dans le milieu country, dans le milieu folk, etc., c'est vrai que pendant très longtemps, la marque Martin, M-A-R-T-I-N, qui a été fondée en 1878, ou je ne me souviens plus exactement, a été une des premières guitares où on a pu mettre des cordes en fer. Donc, pour les musiciens, c'était quelque chose d'important. Et donc, il y a eu plusieurs formats de guitare, et cette guitare-là, la D28, est une guitare importante qui, dont on se sert encore à l'heure actuelle, et qui est encore fabriquée, et qui est une guitare un peu mythique. Surtout dans le milieu de la country et du folk. Donc, bon, voilà. Donc, cette guitare, elle est là, elle passe de main en main. C'est le fil rouge de la transmission. Voilà. Puisque la transmission est quand même l'une des thématiques aussi de ce roman, quoi.
Voilà. Alors, on va revenir peut-être un petit peu plus en détail sur la guitare, parce que je trouve qu'il y a des passages extrêmement intéressants. Auparavant, nous allons refaire une petite pause musicale en devançant un petit peu le fil du roman avec la chanson « Si tu pars ».
Avec le temps, rien ne s'efface. Il reste toujours une trace de nos douleurs en solitaire, de nos bonheurs trop éphémères. Que devient le parfum des roses quand les pétales sont fanés? On dit qu'il en reste quelque chose dans le cœur du jardinier.
Avec le temps, elle s'en va, comme les ongles couchent sur le bois, des vieilles tables d'écoliers, faites au canif mal aiguisé. Que devient la mésange bleue, quand elle quitte son lagon, on dit qu'un musicien chanceux a hérité de sa chanson.
Et si tu pars un jour loin de moi, et si avec les années ta photo devient sépia, moi je ne pourrais t'effacer.
mais sur ce grain d'éternité où le hasard nous a échoués et où le temps nous est compté, qu'aurons-nous gravé? Avec le temps, rien ne s'efface. Il reste toujours une trace de nos erreurs que l'on rejette, de nos actions que l'on regrette.
Et s'il faut sur la colline, un jour est condamné, il y a quelqu'un, j'imagine, qui chantera sa vérité.
Et si tu pars un jour loin de moi, et si avec les années, je ne pourrais t'effacer. Ta photo devient sépia. Moi, je ne pourrais t'effacer.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Vessière pour son roman Ne pas briser le cercle, paru aux éditions Nombre 7. Donc Jean-François, nous venons d'écouter attentivement une chanson assez triste, nostalgique. Ce qui nous permet de passer à un autre thème qui est développé dans votre roman, c'est le temps qui passe, avec le côté un petit peu désillusion et le côté de forcément le temps qui passe, la mort qui approche. Alors, dans la désillusion, je dirais que vous abordez le thème de la désillusion 68arde, un petit peu, en quelque sorte. Alors, je vais faire un plaisir de lire un petit extrait. Mais toi aussi, tu l'as bien vu dans l'os avec ton Peace and Love et ton Imagine de Baba Cool. Il avait raison. Pour eux, comme pour beaucoup d'autres de cette génération, une grande désillusion succéda à l'effervescence des 60s. Le retour à la réalité n'avait pas été facile pour aucun des deux. Chacun à sa façon avait mis du temps à tirer un grand trait sur la grande utopie juvénile commune à chaque génération, changer le monde. Ce qui nous a sauvés, rajouta Fabien, c'est notre passion pour ces satanées six cordes tendues sur un morceau de bois. Donc le côté désillusion n'est peut-être pas uniquement par rapport à la musique, c'est peut-être un petit peu plus large, c'est l'expérience de la vie. Hein, quelque part.
Ben, la désillusion, je pense que toutes les générations l'ont. Quand on est jeune, on peut changer le monde. À 40 ans, on se dit bon, ça va être dur. Et puis quand on arrive à 60, on se dit bon, c'est un peu foutu, on passe le relais. à vous de jouer, les gars.
Alors, il y a aussi le thème de la maladie et de la mort. Dans votre roman, un des personnages donc est atteint de cancer. Et là, j'ai retenu le passage que je vais vous lire parce que ça illustre beaucoup votre style et votre maîtrise de l'écriture, parce que vous faites passer énormément de choses avec des phrases relativement courtes ou des énumérations dans un style très ramassé et qui transfère au lecteur vraiment un ressenti très très fort. Alors, si vous le permettez, je vais en lire un petit peu.
Allez-y.
3 ans de haut et de bas, la vie au rythme du traitement, la perruque, les heures noires, les nausées, la nuit sans sommeil, les examens de contrôle qui font espérer une rémission, nouveau scanner, une tumeur mal située dont on ne peut pas irradier qu'une partie, seconde série d'injections, les antalgiques pour soulager la douleur, les métastases, etc., etc., etc. C'est-à-dire, avec cette énumération de mots, évidemment, très bien choisis, bien ramassés, etc., on rentre dans ce thème lourd. Et on y est vraiment conduit. Hein. Alors, je vous demanderai, pour écrire ces choses-là, ça vient du premier coup ou il faut polir un petit peu les choses?
Alors, pour écrire ces passages-là, bon, je me suis inspiré malheureusement d'expériences personnelles dans ma famille. Mais bon, je n'avais pas tous les éléments. Donc je suis allé faire des recherches sur Internet pour savoir ce que certains malades ressentaient. Quoi. Et surtout au moment de la séparation. Quoi. Donc j'ai pris tout ça, j'en ai fait un mix avec mon expérience personnelle. Et de toute manière, je suis un adepte des phrases courtes. En chanson, il faut faire des phrases courtes. Hein. On ne peut pas faire 10 lignes avec un vers. Donc je suis adepte des phrases courtes. Je trouve que ça donne du rythme. Il ne faut pas tout le temps faire des phrases courtes. Mais bon, je suis assez adepte de ce genre de choses parce que ça donne du rythme. Et puis ça peut créer de l'émotion aussi quand les mots sont à peu près bien choisis. Quoi.
Ce qui confirme ma première analyse, c'est que ce n'est peut-être pas uniquement Jean-François Vessière qui a écrit ce livre. Jefferson lui a donné un coup de main.
Oui, mais c'est les deux. Vous savez, oui. J'ai vu l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai vu ce « Méfiez-vous, je suis auteur, tout ce que vous pouvez dire va me servir. » C'est à la fois vous, c'est à la fois les gens que j'entends dans la rue, parce que je suis très curieux quand je me mets à la terrasse d'un café, j'écoute la conversation d'à côté. « Ah tiens, tac, 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 je le note. » Ou dans des réunions de famille, ou entre copains, ou des fois à la radio, j'entends... Voilà. Là, la chanson qu'on vient d'écouter, là, je me suis inspiré d'une phrase que j'ai entendue à la radio. « Que devient le parfum des roses quand les pétales sont fanés ?» Voilà, c'était quelqu'un qui faisait une émission et qui s'est posé cette question. Je me suis dit, tiens, il faut trouver une chute. J'ai dit, il en reste quelque chose dans le cœur du jardinier.
Voilà. D'accord. Donc, quelque part...
Donc, la première phrase, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui l'a dite. Moi, je n'ai fait que broder sur le reste. Mais c'est le travail d'auteur, c'est de s'inspirer de la vie, quoi.
Voilà. Il faut, pour écrire, il faut être un peu éponge, finalement, par rapport à...
Voilà, il faut être éponge, il faut être curieux.
Oui, tout à fait.
Alors, enfin, pour ma part, sais pas, il y a d'autres auteurs peut-être qui réagissent différemment, mais pour ma part, oui, c'est ça. Oui. Je suis une éponge, oui.
C'est très intéressant. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le thème de la relation à la D28 acoustique. Et alors, on ne dit pas D28 acoustique, vintage, mais on dit non millésimé, c'est ça?
Oui, millésimé, moi je préfère le vintage. Oui. Voilà.
Alors, je vais, pour nos auditeurs, je vais relire à nouveau un passage que je trouve savoureux, qui décrit le rapport à la guitare. Les six cordes sont des êtres accaparateurs, des jalouses, des mangeuses d'âmes, mais aussi des coffres-forts à mélodie pour celui qui pénètre leurs secrets. Cyril en était convaincu, sa guitare possédait aussi les siens. Dans les essences d'arbres qui constituaient sa Martine, se cachaient des vibrations, des notes recueillies au plus profond de leur forêt originaire, harmonie du ramage des oiseaux, chanson du vent, vocalise des bêtes sauvages, bruit cristallin des gouttes de pluie, basse profonde des orages. Il suffisait de transformer ses doigts en fouineurs, en trappeurs de sons, pour faire ressurgir et vibrer sur les cordes toutes ces notes enfouies.
Mais oui, mais c'est ça. Une guitare, c'est du bois. C'est du bois qui a vécu dans la forêt. C'est du bois, du beau bois, qui a été travaillé par un luthier. Et donc, le bois, il a emmagasiné des choses. Et peut-être que le bois, c'est une question que je me pose, peut-être que le bois, ben, il transmet aux doigts certaines vibrations, les cordes aussi, peut-être. Donc, c'était la question qui se posait, quoi. Et donc, c'est vrai que les guitares sont des mangeuses d'hommes, mais à un moment donné aussi, sa copine, elle pique pas, mais bon, elle est un peu jalouse de sa guitare, parce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter tous les deux, quand ils sont en tête à tête, est-ce que la guitare n'est pas amoureuse de lui, est-ce qu'il n'est pas amoureux de la guitare, et qu'est-ce qu'ils se racontent, quoi.
Alors voilà, c'est ce moment précisément où effectivement, la personnification de la guitare est à son comble, parce que finalement, elle devient une concurrente de son épouse.
Ben oui, hein? la fameuse chanson de George Harrison, « While my guitar gently weeps », pendant que ma guitare pleure, mais est-ce que c'est lui qui pleure? Est-ce que c'est sa guitare? On ne sait pas.
Et alors, par rapport à la guitare, ça va même encore plus loin, puisque à un moment donné, dans le roman, la guitare est malade et la guitare a besoin d'une opération.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe qu'on va voir le médecin de la guitare, qui est le luthier. Et le luthier, ben, c'est quelqu'un aux mains d'or, enfin les bons luthiers, et qui trouve ce qu'il faut faire pour réparer l'instrument. Comme un garagiste répare une voiture de collection, ben là, il répare une guitare de collection. Voilà. Et c'est son copain, le luthier, donc, qui lui aussi est guitariste, moins bon guitariste que le héros, mais qui lui répare la guitare et qui... On ne dit pas la fin.
Ah non, on ne dit pas la fin. Et tant que là, à ce stade-là, quand il est obligé de confier sa guitare pour l'opération, parce que la guitare est malade, vous écrivez, il sortit de l'atelier avec un sentiment d'abandon mêlé d'inquiétude. Cette même sensation éprouvée au sortir d'un hôpital où on laisse solitaire dans une chambre sinistre un proche à la veille d'une grande intervention.
Voilà. Ouais. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que, bon, on parle beaucoup de guitare, mais il y a quand même une histoire aussi d'amour avec Marie, qui devient sa compagne, et qui, elle, a une passion, parce qu'il y a la transmission, mais il y a la passion artistique aussi dans le roman, et qui, elle, a une passion qui est l'écriture. Et donc, tous les deux sont des artistes, et le rêve du héros, ce serait que sa copine lui écrive une chanson. Et elle, à un moment donné, dans une interview radio, comme par hasard, c'est là où elle se dit « Oui, parfois, je suis peut-être un peu jalouse de la guitare. » Et elle écrit un roman, donc c'est un peu poupée russe, elle écrit un roman où c'est une guitare qui passe de main en main, et qui passe à travers de main en main de musiciens, et certains qui la maltraitent, quoi.
Voilà. Alors effectivement,
notamment un hard rocker où il dit celui-là il me maltraite, là, il sait pas jouer.
Voilà, c'est effectivement cet entremêlement entre les chansons que vous avez écrites ou faites écrire par l'héroïne. Les textes sont, je dirais, un peu mélangés entre guillemets, ce qui permet effectivement de voir que sous-jacente, il y a cette histoire d'amour entre les deux héros et l'histoire d'amour avec la guitare.
Finalement. Et l'histoire d'amitié aussi avec le luthier.
Avec les luthiers. Donc il y a quelque chose en termes de relationnel très...
Et puis il y a aussi la relation entre le musicien de country qui l'initie à la scène, qui l'initie...
Voilà, le mentor.
Randy, le fameux Randy, donc qui lui fait traverser tous les États-Unis, qui le fait monter sur scène, etc. Donc en fait, il y a aussi cette transmission de l'apprentissage de la scène et l'apprentissage de l'amitié entre un jeune homme et un monsieur qui est pas loin de casser sa pipe, quoi, en gros.
Voilà. Et je parlais tout à l'heure de road trip, et effectivement, il y a ce voyage initiatique qui est un voyage initiatique de la vie et de l'apprentissage de la musique, effectivement, ce qui donne une touche très, très profonde à cette histoire.
Merci.
Alors, nous avons presque plus que 2 minutes. Je voulais faire un petit aparté sur donc votre style, cette écriture donc assez ramassée, très émouvante. Je dirais presque un style sobre et économe. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus pour nos auditeurs, parce que vraiment, c'est un texte à lire qui est très agréable et qui fait ressortir beaucoup de sensations. Et je recommande à nos auditeurs le passage où vous décrivez les baronnies. Là, on est dans la description quasi sensorielle. Des baronnies, c'est assez spectaculaire.
Merci. Bien. J'y suis resté pendant 4 ans, donc je connais un peu le point.
Alors, vous avez mis en épigraphe de votre livre une phrase de Douglas Kennedy que je voudrais juste lire. « Il ne faut jamais sous-estimer l'influence du hasard sur l'existence de tout être. Se trouver à un certain endroit, à une certaine date et à une certaine heure, peut bouleverser la trajectoire d'un individu. »
C'est ce qui arrive aux héros.
Voilà, c'est la conclusion. Jean-François Vessière, le prochain roman, c'est pour quand ?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en aparté, je viens de terminer un recueil de nouvelles. Je suis revenu un petit peu à la nouvelle, qui devrait sortir dans le courant de l'été ou à la rentrée. En ce moment, je suis en train de finir un policier. Je me suis lancé là-dedans. Pardon. Et j'ai un autre roman sous le coude qui est quasi terminé, qui sera aussi dans le milieu musical, mais un peu différent.
Nous sommes impatients.
Voilà, merci.
Donc, merci beaucoup, Jean-François Vessière.
Mais c'est moi qui vous remercie de votre accueil.
Pour ce roman, donc, Ne pas briser le cercle, paru, je le rappelle, aux éditions Nombre 7 et prix du roman 2022 du Salon du Livre des Gourmets des Lettres.
Et de la ville de Saint-Lys.
Et de la ville de Saint-Lys, que j'allais oublier. Oui. Bien, à très bientôt, Jean-François. Au revoir à tous nos auditeurs et à très bientôt également.
Au revoir.
Merci.